France Culture.
Tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec vous, Thomas Cluzel. Rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Au 10e jour de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, les marchés de l'énergie restent suspendus au développement au prochain Moyen-Orient. Le conflit a de nouveau fait plonger ce matin les bourses et ravive les craintes d'une nouvelle vague inflationniste. On s'intéressera notamment au recours envisagé aux réserves stratégiques de pétrole. On parlera également de la guerre menée au Liban et de ses conséquences humanitaires avec notre invité aujourd'hui, Colin Réel, directeur régional à Solidarité Internationale. Alors, hasard de l'actualité, tandis que les répercussions de cette nouvelle guerre sont déjà une réalité en Europe, avec la hausse des prix de l'énergie, il se trouve qu'aujourd'hui même s'ouvre en France la semaine des métiers du nucléaire. La relance de l'atome fait partie des priorités stratégiques du chef de l'État, avec des dizaines de milliers d'emplois à la clé. Enfin, on détaillera cette nouvelle étude scientifique sur l'élimination massive des animaux jugés nuisibles en France. Mesure, on le verra, largement inefficace et extrêmement coûteuse. Paniqué par la prolongation de la guerre au prochain Moyen-Orient, les bourses ont encore lourdement dégringolé ce matin dans la foulée de l'envolée historique. La veille du prix du pétrole, le baril a flambé hier de 25%, dépassant les 110 dollars du jamais vu depuis 2022. Ce matin, c'est le gaz européen qui a lui bondi de 30%. Même l'invasion de l'Ukraine par l'armée du Kremlin n'avait pas provoqué de mouvement aussi violent. Et d'ailleurs, si ce scénario venait à se prolonger, la question se pose déjà de savoir s'il ne pourrait pas avantager la Russie, justement, qui exporte principalement son pétrole à prix réduit vers l'Asie, mais pas seulement, car une hausse des prix de l'énergie pourrait également accroître la pression politique sur l'Union européenne, laquelle s'est engagée à interdire toute importation de gaz russe d'ici la fin de l'année prochaine. Or, à l'issue d'un hiver particulièrement froid, les réserves du vieux continent sont actuellement plus basses que d'habitude. Les ministres des Finances du G7 ont donc prévu de se réunir dans un peu moins d'une heure maintenant sous présidence française pour discuter des conséquences économiques possibles de cette guerre. Ils devraient notamment aborder la question d'un possible recours coordonné à leurs réserves pétrolières stratégiques respectives. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse avec Annabelle Grelier.
La constitution de stocks stratégiques remonte à 1974, lors de la création de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, après le choc pétrolier de 1973. Il s'agit d'un système mutualisé entre ses 30 États membres, parmi lesquels figurent notamment les membres de l'Union européenne, d'Amérique du Nord, mais aussi le Mexique, le Chili, la Colombie, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Chacun de ces 30 pays a l'obligation de détenir des stocks de pétrole équivalents à au moins 90 jours d'importation nette, et d'être prêt à répondre collectivement à de graves perturbations de l'approvisionnement affectant le marché mondial du pétrole, ce qui est clairement la situation actuelle. En France, ces réserves de carburant sont gérées par la Société Anonyme de Gestion des Stocks de Sécurité, la SAGES. Cet organisme dispose de près d'une centaine de sites de stockage un peu partout sur le territoire, des dépôts commerciaux, des raffineries, et même un site de cavité saline, des grottes souterraines situées à Manosque, au sud de la France. Depuis la fin des années 1990, la SAGES a multiplié par plus de 5 ses stocks stratégiques. Malgré les sollicitations, Bercy n'a pas communiqué de chiffres récents, mais la totalité de ses réserves stratégiques représentait en 2020 environ 18 millions de tonnes de pétrole brut, de gazole et d'essence, soit plus d'une centaine de jours de consommation. Alors, il y a deux manières de les débloquer, de façon collective. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, ça a été le cas au moins 3 fois. Soit chaque pays peut en décider individuellement. Le gouvernement français a par exemple pioché dans ses stocks stratégiques en 2016, lors du blocage des raffineries au moment des manifestations contre la loi travail, mais aussi à l'automne 2010, lors du mouvement social contre la réforme des retraites.
Alors la spirale infernale d'une potentielle crise économique mondiale ne saurait faire oublier le coût humain de cette guerre. Au 10e jour du conflit, le pilonnage sans relâche mené par les Américains et les Israéliens se poursuit. L'angoisse devant la mort susceptible de frapper sans prévenir continue donc à épouvanter l'Iran comme le Liban. On fera le point dans quelques instants avec notre invité sur la situation humanitaire au pays du Cèdre. De leur côté, les Iraniens restent pris au piège entre d'un côté la peur d'une destruction durable du pays, puis de l'autre la déception de voir se maintenir le régime des Mollahs. Hier, Mojtaba Rahmenei, le fils d'Ali Rahmenei, a été désigné pour succéder à son père au poste de guide suprême. Preuve qu'en renouant ainsi avec la succession dynastique, mais aussi la ligne dure du pouvoir théocratique, eh bien, les cercles du pouvoir à Téhéran n'ont pas l'intention pour l'heure de pliés face à Washington et Tel Aviv. Et parmi les exemples à travers lesquels se dessinent justement les espoirs déçus d'une partie de la population en même temps qu'une forme de colère et d'impuissance, eh bien les footballeuses de l'équipe d'Iran qui disputent actuellement la Coupe d'Asie féminine en Australie ont refusé de chanter l'hymne national avant leur premier match du tournoi. Emma Sarango, bonjour.
Bonjour.
Et sans surprise, donc cet acte de rébellion a été assez peu apprécié du côté des ayatollahs.
Oui, il n'y a pas de geste particulier, pas de brassard portant un message, mais des visages impassibles et ce silence, on ne peut plus éloquent quand retentissent les premières notes de leur hymne. Ce silence, aucune ne l'expliquera dans les heures qui suivent, mais il rappelle évidemment celui des hommes en 2022 lors de leur entrée en lice au Mondial au Qatar, interprété alors comme un acte anti-régime. C'est donc sans surprise que la semaine dernière, la télévision d'État iranienne qualifie les joueuses de traîtres à la nation qui devront, je cite, être traitées sévèrement. Les footballeuses changent alors de cap. Lors des deux matchs suivants, elles entonnent leur hymne et font un salut militaire. Mais la menace est toujours là. Et alors que le retour à Téhéran était prévu aujourd'hui, le monde entier s'inquiète maintenant du sort des 26 joueuses et encadrants. Selon les informations de la direction des sports de Radio France, elles sont toujours en Australie. L'espace aérien étant fermé, elle devrait de toute façon y rester une dizaine de jours jusqu'à la fin du tournoi. Mais dans quelles conditions? Car dans l'encadrement, même si rien n'est officiel, il y a toujours eu en tout cas des gardiens de la révolution. Alors quel est le degré de liberté sur place? Sont-elles libres de leur mouvement, de leur communication ou sont-elles cloîtrées dans leur chambre d'hôtel? Difficile pour l'instant de le savoir. La FIFA et la Fédération Asiatique de Football devraient par ailleurs les accompagner dans leur démarche pour celles qui ne souhaiteraient pas rentrer à Téhéran, des demandes d'asile politique notamment, mais rien n'indique que ce soit une majorité car beaucoup d'entre elles craignent évidemment des représailles pour leur famille restée en Iran.
Merci Emma Sarango. Alors sur le plan strictement diplomatique, on voit assez mal aujourd'hui quelles seraient les raisons d'espérer une issue rapide à ce conflit. Ce matin, la Chine a réitéré ses appels à cesser immédiatement les opérations militaires et reprendre le dialogue. Il faut dire que Pékin est directement impacté par ce conflit. Plus de la moitié de ses importations de brut transportées par voie maritime provient du Moyen-Orient. Pour autant, il semble assez peu probable en réalité que la Chine sacrifie ses intérêts et fasse front face aux États-Unis pour porter secours à son partenaire iranien, a fortiori quelques semaines avant une possible visite du président Donald Trump à Pékin. Puis c'est toujours dans ce contexte particulier que se tient à partir d'aujourd'hui à Bruxelles la réunion de l'ensemble des représentants de l'UE à l'étranger, en poste dans le monde entier. Chaque année, tous se retrouvent pour échanger sur la situation géopolitique et la gestion des crises. Et bien entendu, la rencontre de cette année sera nécessairement dominée, on l'imagine, par la situation au Moyen-Orient. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Bruxelles ce matin. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a ouvert la journée, Fabien, par un discours à la tonalité, disons, particulièrement alarmiste.
Effectivement, un discours qui reflète l'inquiétude des Européens dans plusieurs domaines, militaires bien sûr, mais aussi économiques. Un peu plus d'une semaine après les premières frappes israélo-américaines sur l'Iran, l'Union Européenne ne ménage pas ses efforts, notamment pour rapatrier un maximum de ressortissants aujourd'hui bloqués au Moyen-Orient. Un défi de court terme qui n'élude pas aux yeux de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, les enjeux de plus long terme.
Les répercussions sont déjà une réalité aujourd'hui, qu'il s'agisse d'énergie, de finances, de commerce ou de transport. Des bases militaires britanniques ont été visées à Chypre, à qui je réaffirme toute notre solidarité aujourd'hui. Nos ressortissants sont pris entre des tirs croisés au Moyen-Orient, nos partenaires y sont attaqués. Je leur exprime également toute notre solidarité et notre soutien.
L'approvisionnement énergétique, notamment gazier, de l'Union européenne est dans toutes les têtes à Bruxelles, car si l'Union ne dépend que pour 10% de ses importations de gaz du Qatar, elle risque de devoir faire face à l'appétit des pays asiatiques, notamment la Chine, prêts à surenchérir pour continuer à s'approvisionner. L'autre crainte majeure, c'est le commerce maritime, notamment en mer Rouge, où les 27 ont renforcé leur présence navale pour sécuriser cette route commerciale essentielle pour l'Europe, notamment visée par les rebelles outils du Yémen, fidèle au régime iranien.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles.
Et puis outre la guerre menée contre l'Iran, de violents combats font toujours rage au Liban.
Ce matin, plusieurs frappes israéliennes ont ciblé la banlieue sud de Beyrouth, de bastion du Hezbollah, le mouvement chiite pro-iranien qui dit par ailleurs affronter actuellement des troupes de l'État hébreu arrivées par hélicoptère dans l'est du pays, près de la frontière syrienne. Au total, 400 personnes ont été tuées depuis le déclenchement de la guerre et plus d'un demi-million d'hommes, de femmes et d'enfants déplacés. Pour évoquer évoquer la situation humanitaire sur place. Invité à présent de la rédaction, Colin Réal, directeur régional en charge du Liban à Solidarité Internationale. Bonjour monsieur.
Bonjour, merci de l'invitation.
Ce matin, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé le déblocage d'une aide d'urgence de 6 millions d'euros pour répondre à la situation d'urgence humanitaire au Liban, à destination donc des différentes organisations humanitaires qui agissent sur place. Comment accueillez-vous cette annonce? Positivement, on l'imagine évidemment, mais très concrètement, quelle aide cette somme va-t-elle permettre donc d'apporter sur le terrain?
Nous accueillons effectivement cette annonce de manière positive. C'est très important que la France se mobilise sur le volet humanitaire de cette crise. Très concrètement, ça va être un soutien dans des centres de santé pour accueillir les personnes déplacées, les personnes qui ont besoin d'un soutien psychologique, les personnes qui sont aujourd'hui dans des abris de fortune, dans des centres d'accueil d'urgence qui sont souvent des écoles et qui vont pouvoir bénéficier d'une aide à la fois matérielle mais aussi en nourriture, pour récupérer face à cette crise. Malheureusement, je pense par contre que 6 millions, ce n'est pas suffisant. Si on compare cette annonce par rapport à celle qui a été faite en 2024, où l'annonce était de 100 millions d'euros, nous sommes un peu inquiets quant à l'amplitude des besoins et l'inadéquation du montant par rapport à l'ampleur des besoins au Liban. Donc nous espérons effectivement une annonce supplémentaire.
Vous évoquiez à l'instant 2024, le Liban avait effectivement déjà connu une crise humanitaire majeure. Est-ce que vous percevez les traces de cette précédente crise dans la situation actuelle ?
Absolument. Les 500 000 personnes que vous évoquiez auparavant sont des personnes qui, en très grande majorité, se sont déjà déplacées en 2024, qui n'ont pas encore récupéré, qui n'ont pas nécessairement pu rétablir leurs revenus, leurs maisons, et qui aujourd'hui sont à nouveau déplacées. Le traumatisme psychologique est très important, mais aussi le traumatisme économique, l'accès à des besoins essentiels et à tout le matériel essentiel est aussi un besoin immédiat.
Quels sont justement aujourd'hui les principaux besoins de la population libanaise ?
On est face à une population qui a dû quitter son logement ou ses logements de manière précipitée. Et ils n'ont porté que très peu de choses en voiture, donc il leur manque à la fois de la nourriture, mais aussi des biens essentiels comme des matelas, des couvertures, des oreillers pour pouvoir se loger. Il leur manque souvent aussi un abri décent. Sur ces 500 000 personnes, plusieurs sont encore à la recherche d'un accès dans un centre collectif d'accueil. Et par ailleurs, pour celles et ceux qui en ont trouvé un, les conditions d'accueil ne sont aujourd'hui pas décentes. Il s'agit souvent d'écoles qui ne sont pas prévues à cet effet. Il manque des partitions pour la dignité, un peu de vie privée. Il manque aussi un accès à l'électricité, au chauffage, à des infrastructures d'accès à l'eau et aux sanitaires. Donc les besoins sont multiples et d'une très très grande ampleur.
517 000 déplacés, on l'a dit. En fin de semaine dernière, ce sont près de 700 000 habitants dans la banlieue sud de Beyrouth qui ont reçu un ordre d'évacuation de la part d'Israël. Est-ce que c'est inédit au Liban, un ordre d'évacuation à destination d'un aussi grand nombre de personnes ?
Absolument, et c'était surtout imprévu. C'est la grande différence avec 2024, où aujourd'hui le sud de Beyrouth semble faire l'objet d'une attention particulière et un ordre d'évacuation pour l'entièreté du quartier de Dahiyeh est gigantesque. C'est plus grand qu'une ville comme Lyon, par exemple, si on résume ainsi. Donc vous imaginez la panique pour les familles, la crainte de nouvelles attaques. C'est absolument inédit et ça génère une énorme inquiétude et ça nous oblige aussi à penser cette crise sur le temps long, étant donné le niveau de destruction et le niveau de déplacement de population.
Depuis le début de la semaine dernière, donc les frappes israéliennes se sont multipliées après que le Hezbollah a tiré des missiles en réponse à l'annonce donc de la mort du guide iranien. Ce matin, Human Rights Watch accuse l'État hébreu d'avoir utilisé illégalement des armes au phosphore blanc dans des zones résidentielles. Est-ce que cela vous a été confirmé ?
Je ne peux pas confirmer une telle information. Nos équipes se sont déplacées elles-mêmes des régions concernées. Mais par contre, nous regardons ces, enfin, nous obtenons ces informations et nous les regardons avec la plus grande inquiétude, effectivement.
C'est bien noté. Merci, Colin Réal, donc directeur régional en charge du Liban à Solidarité Internationale, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Le gouvernement belge dénonce ce matin un acte antisémite abject.
Une explosion est survenue la nuit dernière devant une synagogue à Liège. Celle-ci n'a fait fort heureusement aucun blessé, mais son origine criminelle ciblant directement la communauté juive ne fait aucun doute. Le parquet fédéral s'est saisi de l'enquête.
Détenu depuis un an, le maire d'Istanbul comparaît depuis ce matin au tribunal.
RM Imamoglu est jugé dans une vaste affaire de corruption qualifiée par ses partisans comme une tentative de saboter ses chances de défier le président Erdogan à la prochaine élection. Rappelons que l'ancien édile de la plus grande ville du pays a été emprisonné le jour même de sa désignation, justement, comme candidat du principal parti d'opposition. Le procureur l'a inculpé de pas moins de 142 chefs d'accusation qui pourraient lui valoir une peine allant jusqu'à 2430 années de prison. Reste à savoir si cette instrumentalisation flagrante du système judiciaire en profit d'un régime autoritaire, sinon dictatorial, est de nature à étouffer le besoin de changement de plus en plus manifeste de la population lassée face au règne sans partage du président Erdogan au pouvoir depuis 2003.
Midi et 45 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
450 événements dans toute la France pour promouvoir la filière et attirer les candidats. Aujourd'hui débute la semaine des métiers du nucléaire. Cette quatrième édition, prévue pour durer jusqu'à vendredi, est organisée par France Travail et s'inscrit dans le programme de relance de l'atome annoncé il y a maintenant 4 ans par le président Emmanuel Macron avec la construction de 6 nouveaux EPR2. Alors nécessairement, les embauches dans le domaine s'annoncent nombreuses. 10 000 emplois d'ores et déjà sont à pourvoir dès maintenant sur le site de France Travail et la demande devrait rester constante pour les années à venir avec quelques 100 000 postes d'ici 2035. Autant dire que pour Michel Zvieton, référent national à France Travail pour les métiers du nucléaire, cette semaine en pleine pénurie de main-d'œuvre s'annonce absolument cruciale, il le dit à Noah Marchais.
La filière nucléaire peut avoir une image de très haute technologie, ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne recrute que des personnes de très haut niveau en technologie, donc des ingénieurs, des docteurs. Sur les à peu près les 100 000 personnes qui vont être recrutées d'ici 2035, dans environ 2/3, c'est des niveaux CAP à Bac plus 3.
Est-ce que vous diriez qu'il y a des manques justement en termes de salariés dans la filière et si oui, dans quel domaine en particulier?
C'est tout ce qui concerne la métallurgie. La construction d'un réacteur, c'est beaucoup de la métallurgie. Donc ça peut être des métiers de soudeur, mais des soudeurs de haute précision, de mécaniciens, machines tournantes, de techniciens d'exploitation, d'ajusteurs, usineurs. Et puis je rajouterais pour finir que ça peut intéresser notamment des publics qui peut-être ne pensent pas naturellement à ce secteur. Je pense au public féminin notamment. Aujourd'hui, dans l'industrie nucléaire, il y a entre 24 et 25% de femmes. C'est sans doute un pourcentage qui peut être amené à se développer. Et on peut pousser des candidates à poser justement leur candidature dans cette filière où il y a énormément de place pour elles.
Michel Zvieton, donc référent national à France Travail, il répondait à Noah Marchais.
L'élimination massive des espèces nuisibles en France est inefficace et coûteuse.
Oui, c'est ce qui ressort d'une étude scientifique publiée ce matin. Chaque année, 1,7 million d'animaux, parmi lesquels des renards, des corneilles, susceptibles d'occasionner des dégâts pénalisant notamment certaines activités agricoles, sont tués pour réduire les pertes économiques et les risques sanitaires. Or, cet abattage n'aurait au fond, qu'assez peu de résultats positifs. Véronique Robert, bonjour.
Bonjour.
Non seulement cette mesure ne contribuerait pas véritablement à la baisse des effectifs, mais elle coûte par ailleurs extrêmement cher.
Oui, les chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle qui se sont penchés sur les effets de la chasse systématique des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts qu'on appelait autrefois les nuisibles, ces chercheurs démontrent que non seulement ces destructions d'espèces coûtent plus cher que les dégâts agricoles provoqués par les animaux, mais qu'en plus il n'y a pas moins de dégâts au final. Quelques chiffres, vous l'avez dit, 1 700 000 renards roux, corbeaux, fouines, belettes, pies bavardes, jais, étourneaux, sansonnets, putois qui sont chassés chaque année ou alors piégés, capturés, déterrés, pour réduire les pertes économiques, comme par exemple des champs ensemencés dont les graines vont être mangées par les oiseaux. Mais cette élimination a un coût entre 103 et 123 millions d'euros par an, quand le coût des dégâts déclarés est compris entre 8 et 23 millions d'euros. C'est 8 fois plus cher de tuer que d'indemniser les dommages économiques causés, concluent donc les chercheurs. chercheurs qui jugent logiquement cette politique d'élimination des espèces nuisibles inefficace et non rentable. Quant à la régulation des espèces, les chercheurs font aussi le constat que l'élimination des animaux jugés nuisibles en France ne contribue pas non plus à la baisse des effectifs, notamment sur les populations d'oiseaux nicheurs. Des études précédentes avaient aussi étaient arrivées au même constat pour le renard roux. Voilà qui pose en tout cas nettement la question de la refonte de l'approche française sur la gestion de ces nuisibles, souhaitée par plusieurs ONG, nuisibles entre guillemets.
Merci Véronique Robérot. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Alternance de nuages et d'éclaircies. Les pluies persistent en revanche autour de la Méditerranée. Quant aux températures, elles sont comprises entre 11 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.